Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant quelle est notre vocation céleste. Je répète, quelle est notre vocation céleste? Et nous sommes à l'étude numéro 13, et ce sera la troisième partie. Nous sommes à 13e mement. Troisième partie, 13e mement. Le titre sera « Le berger d'Israël ». Veuillez lire tranquillement chez vous le 10e chapitre de Saint Jean. Saint Jean, chapitre 10. Le cœur de ce chapitre se trouve au verset 11e, où il est dit « Je suis le bon berger ». Prenons à côté de celui-là les passages suivants des Saintes Écritures. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, par la main de Moïse et d'Aaron. Psaume, chapitre 77, verset 21. Ensuite, prenez le psaume 78, donc 78, verset 52. Il est dit, il amena son peuple comme un troupeau de brebis, Il le conduisit comme son troupeau à travers le désert. Psaume, donc 78, verset 52. Ensuite, nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 28 à 30. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau, au milieu duquel le Saint-Esprit vous a établi surveillant pour paître l'Église, de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Pour moi, je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau, et même du milieu de vous, il se lèvera des hommes au langage pervers qui s'efforceront d'entraîner les disciples à leur suite. Actes chapitre 20, versets 28 à 30. Et notez encore Hébreux chapitre 13, versets 21 à 26. Il est dit que le Dieu de paix, qui a ramené du milieu des morts notre Seigneur Jésus, devenu par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur des brebis. Il vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Hébreux, chapitre 13, versets 26 à 21. Chers amis, il nous est ici parlé du troupeau dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau. Il n'est pas nécessaire de chercher à prouver le fait que le Seigneur considérait l'Israël d'autrefois comme son troupeau. Les nations ont été jugées par Dieu à cause du traitement qu'elles ont infligé à ses brebis. Elle les dispersait et les détruisait. Dieu était donc profondément irrité contre les faux bergers en Israël parce qu'ils n'accomplissaient pas leur devoir à l'égard des brebis. Il nous est parlé davantage, comme nous l'avons vu, dans les psaumes du peuple d'Israël qui nous y est montré comme étant le troupeau du Seigneur. Nous avons commencé notre méditation sur ce sujet-là en rappelant que le Seigneur est le propriétaire des brebis. C'est le grand trait qui gouverne toute cette question. Les brebis appartiennent au Seigneur. Elles sont à lui, et le fait qu'il en est le propriétaire, cela est souligné partout. Les brebis existent pour le berger, et le berger existe pour les brebis. Nous remarquons partout l'amour de Dieu pour les enfants d'Israël qui sont ses brebis. Ils étaient le peuple dont il est le berger et le troupeau que sa main conduit. Psaume 90, 15, psaume donc 95, verset 7. L'amour de Dieu pour le peuple d'Israël était quelque chose de merveilleux. Quel soin il a pris pour ses brebis dans le désert. Combien lui, qui était leur berger, il a pourvu à l'eau et à la nourriture dont elles avaient besoin, même dans un désert. Combien il était irrité lorsque quelqu'un touchait à ses brebis. Toucher à l'une de ses brebis, c'est le toucher lui, le Seigneur. Le Seigneur avait voulu être le propriétaire de ses brebis, et parce qu'il les possédait et qu'elles étaient ses brebis, il faisait tout pour elles. En ces jours, nous voyons comment Dieu, d'un côté, a dû abandonner Israël. Le Dieu qui a tant aimé Israël, qui a été si jaloux pour les enfants d'Israël, qui a fait pour eux tout ce qui était en son pouvoir, a dû, pour finir, accepter le fait qu'il répudiait lui en tant que leur berger. Pourquoi cela? Ce n'était pas dans la pensée de Dieu. Cela semble être une telle contradiction de lui-même. Il n'aurait jamais fait cela s'il avait pu l'éviter. Car il avait dit, « Je t'ai aimé d'un amour éternel. » Jérémie chapitre 31, verset 3. C'était donc pour Dieu une chose terrible que d'avoir à abandonner Israël, mais il a dû le faire. Et aujourd'hui, Israël est dans cette position. Ce peuple n'est plus le troupeau de Dieu comme dans les jours d'autrefois. Pourquoi cela arriva-t-il? Eh bien simplement, pour cette raison, le péché fatal du peuple d'Israël a été sa répudiation de Dieu comme son berger. Les enfants d'Israël se sont tournés vers d'autres dieux et ils ont fait d'eux, de ces dieux-là, leurs bergers. Ils ont donc écouté leur roi et ont répudié la souveraineté unique du Seigneur. Ce grand chapitre d'Ésaïe 53 montre leur attitude à l'égard du berger. Un mot ressort de ce chapitre. Nous étions tous comme des brebis errantes. Et il montre ensuite comment Israël a traité le berger que Dieu lui a donné. Il est très impressionnant de remarquer que l'apôtre Paul relève ce fait dans sa lettre aux Romains. Il dit, « Mais tous n'ont pas prêté l'oreille à la bonne nouvelle. » Car Ésaïe dit, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Romains 10, verset 16. Oui, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Israël a refusé de croire au message des prophètes, c'est vrai, Et ce message tout entier montrait Dieu comme le berger et Israël comme le troupeau de Dieu. Et le prophète dit, c'est pour cela que le peuple s'est détourné de l'Éternel. Nous étions tous comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. Ésaïe 53, verset 6. Il se détourna donc de la voie de l'Éternel pour suivre sa propre voie. Et la propre voie pour ce peuple, ce fut de choisir des bergers qui étaient autres que le Seigneur. Il est aussi très impressionnant de remarquer que ce passage du psaume 95, dont le verset 7 commence par ces mots, « Nous sommes le peuple dont il est le berger. » Nous sommes le peuple dont il est, lui, l'Éternel, le berger. Et cela continue par exprimer ces paroles étranges. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous sommes donc le peuple dont il est le berger. Mais les brebis peuvent avoir le cœur très dur et refuser d'entrer et d'entendre la voix du berger. Ainsi, il dit à ses brebis d'autrefois, « Aujourd'hui, oui aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. » Savons-nous que ce mot lui-même est cité au moins trois fois dans la lettre aux Hébreux? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux chapitre 3, versets 7 et 8. C'était donc la dureté de leur cœur, le refus d'entendre sa voix qui a causé pour les enfants d'Israël la perte de leur berger. L'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Romains, « Je ne veux pas, frères, que vous ignorez qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. » Romains chapitre 11, verset 25. Et nous n'avons qu'à lire le chapitre de Saint Jean, chapitre 10, que je vous ai déjà mentionné, pour comprendre le cœur dur d'Israël, c'est une chose terrible. Regardons-le simplement. Jésus avait dit de lui-même qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Il avait dit, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. » Verset 28, donc Saint Jean chapitre 10, verset 28. Nous avons là toutes ces choses merveilleuses qu'il dit de lui-même, leur berger, et il le dit pour ses brebis. Et nous avons là remarqué ce qui arriva ensuite. Les Juifs ont été de nouveau divisés à cause de ces paroles. Plusieurs d'entre eux ont dit « Il est peut-être même possédé d'un démon. Je suis le bon berger. Or, je donne ma vie pour mes brebis. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Il a dit toutes ces choses merveilleuses, si belles, et les Juifs disaient, il est possédé d'un démon, incroyable, mais vrai, affreux. Comprenons-nous maintenant pourquoi Dieu les a rejetés? Nous avons endurci nos cœurs, et ça peut nous arriver aussi si nous endurcissons notre cœur. Nous nous sommes donc détournés, chacun dans sa propre voie. Nous tous, comme des brebis, nous sommes égarés. Et nous pouvons aussi être égarés. Nous nous sommes éloignés du berger, et si nous le faisons, à cause de notre propre volonté, en d'autres termes, nous avons dit, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, dans Saint-Luc chapitre 19, verset 14, « Oh, nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. » Tel est donc l'arrière-plan juif de ce chapitre. Nous pouvons comprendre l'atmosphère d'antagonisme et nous pouvons sentir combien il haïssait. Un peu plus tard, ils ont tenu conseil afin de le tuer, même de vouloir le tuer. Il avait eu raison lorsqu'il les avait appelés des loups qui détruiraient les brebis. Jésus entra directement dans cette atmosphère et il dit « Je suis, moi, le bon berger et je conduirai mon troupeau hors de ce qui existe ici. Je le ferai sortir de ce cadre et de ce faux troupeau. » Et il conduit alors le noyau de son nouveau troupeau pour donner à ses brebis la vie éternelle. Il commence par un noyau qui est tiré de l'ancien troupeau. Une œuvre de séparation se fait maintenant. Nous n'avons pas lu tout ce qu'ont dit les Juifs qui ont désiré le réserver pour ce point-ci. Les Juifs furent de nouveau divisés à cause de ces paroles. Et plusieurs d'entre eux ont dit, il est même possédé d'un démon, il est hors de sens à ce moment-là. Pourquoi l'écoutez-vous? Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres ont dit, ce ne sont pas les paroles d'un possédé, car un démon... Voyons un peu, soyons raisonnables. Un démon peut-il vraiment ouvrir les yeux des aveugles? Saint Jean chapitre 10, verset 10 à 21. Le Seigneur Jésus, évidemment, commence à trouver quelques autres brebis. Il y a dans le vieux troupeau celles qui se tournent vers lui et elles représentent le nouveau commencement, c'est-à-dire le nouvel Israël. Et il dit, je les conduirai dehors, hors de tout ce cadre-là. Et nous voyons ce noyau donc, au jour de la Pentecôte. Nous le voyons au jour de la Pentecôte, car il commence d'abord par 12, nous le savons, les 12 disciples, ensuite 120, ensuite plus de 500 frères en un seul jour, et puis ensuite 3000, et ensuite encore 5000. Ça, c'est le nouveau troupeau. Oui, Jésus établit ici le principe de l'Ancien Testament. S'il ne peut pas avoir les brebis de l'Ancien Testament, alors il reprendra le principe du berger et des brebis et le retrouvera dans son nouvel Israël de cette dispensation. La position est tout à fait claire, n'est-ce pas? Nous la voyons tout à fait clairement. Un Israël est mis de côté, hein? Et un autre Israël le remplace maintenant. Ce qui est terrestre disparaît donc, et ce qui est céleste paraît pour le remplacer. et cet Israël céleste devient le nouveau troupeau sous la garde du berger. Il nous faut relever quelques-unes des marques de ces vraies brebis. Jésus dit dans ce chapitre, « Je connais mes brebis », Saint Jean chapitre 10, verset 14. « Je connais mes brebis » et il y a certaines marques par lesquelles il connaît ses brebis. Si nous avons quelques doutes et ne sommes pas certains d'être une brebis du Seigneur, nous pouvons le prouver et le Seigneur lui-même nous connaît par ces marques-là. Et nous le savons, le berger et les bergers mettent, on le sait très bien, une certaine marque sur leur propre brebis. Et ce peut par exemple être une marque rouge ou une bleue, mais ils mettent sur leur brebis leur propre marque. Certains autres mettent un chiffre. Jésus dit ici, je connais mes brebis, parce qu'elles ont sur elles ces marques. Que sont, chers amis, ces marques? La première est celle-ci. Mes brebis entendent ma voix. Verset 3. Mes brebis entendent ma voix. Voilà déjà une marque. Et nous le savons, il y en a ceci, il y en a des illustrations, là, d'une grande vérité. Les évangiles ne sont que des illustrations de grandes vérités. Lorsque nous continuons dans les autres écrits du Nouveau Testament, nous voyons qu'il nous est parlé beaucoup d'intelligence spirituelle et de compréhension spirituelle, et il nous est dit qu'il faut avoir une oreille pour entendre ce que dit l'Esprit. Nous avons ces mots répétés même 7 fois au commencement du livre de l'Apocalypse. Il est dit que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit. Apocalypse chapitre 2, verset 7, etc. Ce n'est naturellement pas de notre oreille extérieure qu'il est parlé, vous l'avez bien compris. Les brebis du Seigneur ont une oreille intérieure qui leur est donnée, c'est-à-dire qui leur est donnée la faculté d'une intelligence spirituelle et il leur est donné le pouvoir d'entendre ce que personne d'autre ne saurait entendre. Voyez-vous? C'est de cela, évidemment, c'est de cela que parlait le Seigneur quand il a dit « Mes brebis savent lorsque je leur parle. Elles ont donc une oreille ouverte pour moi et elles écoutent toujours ma voix. Elles entendent ma voix. » Chaque enfant de Dieu réellement né de nouveau reçoit cette faculté de l'ouïe spirituelle. Et c'est pourquoi nous disons, dans les premiers jours de notre vie spirituelle, le Seigneur semble me dire quelque chose. Il semble me dire que je ne dois pas parler comme je le fais, que je ne dois pas me vêtir comme je le fais, et que je ne devrais pas aller dans les lieux où j'avais l'habitude d'aller, et beaucoup de choses semblables. Donc le Seigneur semble nous dire quelque chose. Il parle donc dans notre cœur par l'Esprit Saint, et à mesure que nous avançons dans la vie chrétienne, cela devient la chose qui va gouverner maintenant notre vie. Nous cherchons à entendre ce que le Seigneur nous dit, et lorsque nous entendons sa voix, nous traversons un moment critique. Suivrons-nous le chemin de l'ancien Israël? Ou bien Écouterons-nous cette voix pour obéir? C'est le message de la lettre aux Hébreux. Ne retournez pas sur cette ancienne base. Oui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, alors n'endurcissez pas vos cœurs comme l'a fait l'ancien Israël. C'est quelque chose de merveilleux que de voir ses enfants obéir à sa voix. Il n'est pas nécessaire à d'autres de leur dire ces choses-là. Ce sont de pauvres chrétiens que ceux à qui il faut toujours et toujours redire ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Les vrais brebis, ceux-là, entendent sa voix et elles le suivent tout simplement. Elles ne se compliquent pas les choses, elles le suivent tout à fait d'accord avec ce qu'il leur dit. C'est quelque chose qui vient du cœur. Elles l'ont entendu parler dans leur cœur, dans leur esprit. C'est naturellement le sujet de l'intelligence spirituelle dont parle tout le Nouveau Testament. Et vous et moi, qui sommes chrétiens, où nous devrions en être des véritables, eh bien nous sommes supposés avoir cette faculté-là. Nous avons déjà parlé de Nicodème, rappelez-vous. Il était un chef des Juifs et même un grand homme en Israël. Il avait une position élevée et une très grande éducation. Et il n'avait cependant pas la première idée des choses spirituelles. Jésus avait dû lui dire, « Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Saint Jean chapitre 3, verset 12. Nicodème ne pouvait pas voir au-delà de ce qui est naturel, c'est-à-dire ce qui est vraiment spirituel. Je dis, Nicodème ne pouvait pas voir au-delà de ce qui est naturel, donc de ce qui est spirituel. Et lorsque Jésus dit, il faut naître de nouveau, il ne pouvait pas voir bien au-delà de ce qui est naturel. Et alors il a dit, voyons, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Saint Jean chapitre 3, verset 4. Il n'a pas d'intelligence spirituelle. Il était comme un petit enfant, bien qu'il fût un très grand maître en Israël. Une petite fille âgée de 4 ans, elle est allée à l'école du dimanche, et en rentrant à la maison, elle a dit à sa maman, « Maman, veux-tu aller me chercher tous mes jouets d'enfant que nous avons mis de côté ?» Sa mère lui répondit, « Mais voyons, pourquoi désires-tu de nouveau tous tes jouets d'enfant ?»« Oh !» dit-elle. « Mon maître a dit que je dois naître de nouveau. » Oui, voyez-vous, mes chers auditeurs, elle est un petit enfant et nous pouvons attendre cela d'elle. Mais nous avons ici ce grand éduqué, Nicodème, et il ne connaît même pas. Il ne connaît pas plus que ses petits enfants. L'intelligence spirituelle, voyez-vous, c'est pas la même chose. Elle appartient à ceux qui sont nés de nouveau. Et ce don nous est fait à notre nouvelle naissance. Nous avons de nouvelles facultés pour entendre, pour voir, pour sentir, et ainsi de suite. Et, nous le répétons, c'est de cela que nous parle le Nouveau Testament, lorsque l'intelligence spirituelle est mentionnée. C'est ce que rappelait Jésus lorsqu'il a dit « Mes brebis entendent ma voix ». La marque suivante qui distingue ces brebis, c'est « Mes brebis me suivent ». Saint Jean chapitre 10, verset 27. Ces paroles sont simples, mais elles ont une signification très profonde. Elles signifient que ces brebis n'ont jamais besoin d'être tirées. Il n'est jamais nécessaire de les obliger à suivre sa voix. Ces brebis le suivent d'une manière spontanée et volontaire. Le Seigneur n'a jamais besoin de dire « Où ne devrais-je jamais être obligé de dire à ses brebis ?» Il faut suivre ce chemin-là. Je répète, ces brebis le suivent d'une manière spontanée et volontaire. Et le Seigneur n'a jamais besoin de dire ou ne devrait jamais être obligé de dire à ses brebis qu'il faut suivre ce chemin-là. Le Seigneur suit un certain chemin et ses brebis voient ainsi le chemin qu'il suit et ainsi elles le suivent. Naturellement, dans notre monde occidental, il s'agit du contraire en ce qui concerne les brebis. Les brebis doivent être chassées, mais il n'en est pas ainsi à l'Orient. Et Jésus prend le principe du gouvernement de l'Orient. Il dit « Je ne chasse pas mes brebis, je n'ai pas besoin de me placer derrière elles comme en Occident ». Avec un chien pour les obliger à avancer. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent tout simplement. C'est un mouvement spontané du cœur qui nous fait suivre ainsi le Seigneur. Appliquons donc cette loi. Ce sont les marques des brebis du Seigneur. Sommes-nous l'une de ces brebis, l'entendons-nous réellement parler dans notre cœur? Écoutons-nous vraiment sa voix? Cherchons-nous à ce que notre vie soit dirigée par la voix de l'Esprit Saint qui nous parle par la parole de Dieu, par les circonstances de notre vie et par nos tristesses? Je voudrais dire « Où ?» par nos tristesses. Je répète cela, cherchons-nous à ce que notre vie soit dirigée par la voix de l'Esprit Saint qui nous parle par la parole de Dieu, par les circonstances de notre vie ou par nos tristesses. Le Seigneur a toujours quelque chose à nous dire. Il y a peu de choses qui arrivent aux brebis du Seigneur sans avoir de signification. C'est à nous, de chercher à connaître ce que le Seigneur nous dit. La vie des brebis du Seigneur, elle est gouvernée par sa voix, qu'elle entende. Connaissons-nous cela? Et qu'en est-il de cette réponse spontanée que nous donnons au Seigneur? Notre cœur, je vous le demande, est-il réellement décidé à suivre le Seigneur? Est-ce un cœur qui entend ce que le Seigneur désire de lui et qu'il répond aussitôt par un sincère « Oui, Seigneur, je viens à toi. Quel est le lien qui nous unit, nous, chers amis, nous, les brebis du Seigneur, à lui, notre bon berger? Est-ce le même lien que celui qui existait entre le vieil Israël, avec lequel il a eu tant de difficultés? Et, en effet, ce même principe se retrouve, il est, lui, le propriétaire, n'oublions jamais. Ce qui nous unit, chers amis, au Seigneur, c'est la réalisation que nous lui appartenons, qu'il est le propriétaire absolu de nos vies. Et pour citer un autre passage des Saintes Écritures, « Vous n'êtes point à vous-même, est-il dit ?» dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Il est dit là, « Vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Car vous avez été rachetés, et dans une version allemande, il est dit, à un très grand prix. » 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20. Et nous avons sur nous la marque du Seigneur qui est le sceau de son droit de propriété. L'apôtre Paul nous dit que le sceau est le Saint-Esprit. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1 verset 13. Lorsque nous voyons un sceau, nous savons à qui appartient l'objet qui le porte. Il nous dit, ceci est la propriété d'une certaine personne. Le Seigneur nous donne donc son esprit comme le sceau du fait que nous lui appartenons. Quelle brebis a été l'apôtre Paul? Il a dit, que désormais personne ne me fasse de la peine, c'est-à-dire ne tente de me détourner, car je porte à mon corps les stigmates de Jésus. Galates chapitre 6, verset 17. Les stigmates de Jésus, cela signifie que je lui appartiens. Il dit sur le bateau, lorsqu'il allait à Rome, « Cette nuit, en effet, un ange de Dieu à qui je suis et que je sers, à qui je suis, à qui j'appartiens et que je sers. » Actes des Apôtres 27, verset 23. Donc, les vraies brebis du Seigneur n'ont jamais honte de dire « Moi, Jacques ou Joël ou André, j'appartiens au Seigneur Jésus car il possède ma vie et tout ce que j'ai, il le possède. Ça lui appartient. Je suis complètement consacré à Jésus. C'est une véritable brebis maintenant. Ce sont donc là, chers amis, les marques du nouvel Israël, et nous pouvons comprendre ces mots qui ont été la clé de notre méditation. Et c'est pourquoi, mes chers frères et sœurs saints, vous qui êtes les disciples d'une vocation céleste, vous qui êtes les compagnons de Christ, selon Hébreux chapitre 3, versets 1 et 14, il y a un lieu de communion qui unit ce berger et ses brebis. Elles ne sont pas simplement des animaux, elles sont des amis. il y a une amitié merveilleuse maintenant entre le Seigneur Jésus et les siens, oui, les disciples qui sont maintenant d'une vocation céleste. Et chers amis, avant de prier ensemble, le Seigneur m'a donné quelque chose pour vous communiquer comme enseignement et encouragement. Voici, déchargez-vous sur Dieu de tous vos besoins, car il prendra soin de vous. Philippiens 4, versets 6 et 19. Voilà bien, n'est-il pas vrai? Des paroles sans prix. Elles supposent en effet et réclament les soins et les prévenances délicates de l'amour vrai, comme aussi tout ce que cet amour tient en réserve de meilleur pour l'avenir. Il ne vous est pas demandé de vous détourner de vos soucis de façon à n'y plus penser, mais de vous en décharger sur Dieu. C'est très différent, car désormais, quelqu'un de compétent s'en charge. Et c'est ainsi que seront éliminées les difficultés, corrigées les erreurs, surmontées les défaillances, soignées efficacement les maladies et résolues les problèmes. Sachez également que le fait de pouvoir aider votre frère, votre sœur, ne dépend pas de lui. Cela dépend de vous. Vous le pouvez à partir du moment où vous permettez au Seigneur d'ôter la poutre de votre œil. Saint Matthieu, chapitre 7, versets 3 à 5. Ne vous prenez pas d'abord, ne vous en prenez pas d'abord aux fautes d'autrui, mais aux vôtres, dans la mesure où elles seront extirpées, eh bien vous découvrirez en quoi votre frère, votre sœur a besoin d'être aidé et vous deviendrez capable de lui apporter l'aide dont il ou elle a besoin pour surmonter et extirper ses fautes. Et maintenant, prions, chers amis. Prier, c'est décharger son cœur dans une confiance illimitée en l'amour paternel de Dieu, puis poursuivre sa route joyeusement comme un enfant. Prions. Dieu Tout-Puissant et Éternel, nous chantons tes paroles dans les psaumes, les paroles que tu nous as données dans la Sainte Écriture. Nous te présentons nos préoccupations et nos peurs, mais dans ces paroles, tu donnes déjà la réponse à nos besoins. Tu nous as toi-même donné une école de prière dans les psaumes. Nous pouvons exprimer dans les paroles qui nous sont présentées nos propres expériences et désirs, et dans le chant, nous pouvons nous ressentons combien tu ne cesses de nous répondre que tu es toi-même la fin de notre désir, que tu transformeras notre détresse et que tu es le rocher sur lequel nous pouvons bâtir notre vie, que tu es le refuge où nous pouvons nous rendre pour recevoir aide et protection. Que je goûte donc la saveur des paroles dont tu nous as gratifiées, que ces paroles pénètrent toujours plus profondément dans mon cœur, dans notre cœur, pour que je m'emplisse, pour que je me remplisse de plus en plus de ton Saint-Esprit salutaire. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études, et à demain matin pour la suite de cette série. Que le Seigneur vous bénisse, car n'oubliez jamais, il vous aime. Au revoir.